Thomas Hardy. Le maire de Casterbridge. Chapitre 17. Elizabeth Jane avait compris, à l'attitude d'Enchard, qu'elle avait commis un impair en acceptant de danser. Seulement, dans sa naïveté, elle ne comprenait pas la nature de sa faute, et il fallut, pour l'éclairer, un mot soufflé par une personne de connaissance. Comme belle-fille du maire, elle n'était pas tout à fait à sa place au milieu d'une foule aussi mêlée que celle qui remplissait le pavillon. Ses joues, ses oreilles et son menton prirent aussitôt feu comme des charbons ardents, au simple soupçon qu'elle put faire montre de goût inférieur à sa situation et valoir au sien une sorte de honte. Très peinée d'une telle pensée, elle se mit en quête de sa mère, mais Madame Henchard, qui avait encore bien moins de notions conventionnelles que sa fille, était déjà partie, en laissant à Elizabeth la liberté de rentrer quand bon lui semblerait. La jeune fille errait donc sous les allées touffues, véritable voûte vivante et obscure de bois qui bordait les limites de la ville. Elle s'arrêta, en entendant un pas qui s'approchait d'elle. C'était Farfrae, auquel Henchard venait de signifier son congé. Il reconnut le visage de la jeune fille, éclairé à la lueur de la tente. « Ah, c'est vous, Miss Newson. Et moi qui vous cherchais partout, » fit-il, en surmontant la tristesse que lui causait l'hostilité du marchand de blé. « Puis-je vous accompagner jusqu'au coin de votre rue ?» Malgré la petite incorrection d'une telle offre, Elizabeth ne fit pas d'objection. Les deux jeunes gens longèrent donc, côte à côte, la promenade de l'ouest. Ils débouchaient dans l'allée du jeu de boules quand Farfrae rompit le silence. « Il est probable que je vais bientôt vous quitter, Miss Newson. »«
Pourquoi cela ?» balbutia-t'elle.
« Oh, simple affaire de commerce, rien de plus. Ne nous en tourmentons pas. Cela vaut mieux sans doute, mais j'avais espéré vous faire danser encore une fois. » Elle dit qu'elle ne savait pas danser, pas bien danser au moins. Mais si vous dansez bien, c'est le goût de la danse bien plus que la science des pas qui fait les bons danseurs. Je crains d'avoir blessé votre beau-père en organisant cette affaire, et maintenant je vais peut-être devoir partir pour l'autre bout du monde. C'était là pour Elizabeth une perspective si mélancolique qu'elle laissa échapper un soupir bien entrecoupé pour que son compagnon ne l'entendît pas. Mais l'ombre donne de l'audace, et l'Écossais, qui avait peut-être tout de même entendu le soupir, reprit impétueusement. « Je voudrais être plus riche, Miss Newson, et n'avoir pas offensé votre beau-père. Je vous demanderai bientôt quelque chose, oui, je vous le demanderai ce soir même. Mais je n'ai pas le droit d'avoir une telle audace. » Ce qu'il aurait demandé, il ne le dit point, et au lieu de l'interroger, la jeune fille garda le silence des gens qui ne comprennent point. Ils avaient un peu peur l'un de l'autre. Ils marchaient côte à côte sur les remparts et allaient arriver au bout de l'allée du jeu de boules. 20 pas encore et les arbres cesseraient. Ce serait le coin de la rue et la lumière des réverbères. Cette pensée arrêta leurs pas. Je n'ai jamais su qui nous avait envoyés comme des nigauds ou greniers de Durnover, fit Donald de sa voix modulée. Et vous, Miss Newson?
Moi non plus.
Je me demande pourquoi on a fait cela. C'était une farce, sans doute. Qui sait, ce n'était peut-être pas pour cela. On voulait peut-être nous faire attendre là-bas ensemble et causer. Enfin, j'espère que Casterbridge ne m'oubliera pas si je m'en vais.
Oh, j'en suis sûre, fit-elle vivement. Moi, je voudrais que... Vous ne partiez pas du tout.
Ils étaient arrivés dans la lumière des lampes. Eh bien, j'y repenserai, fit Donald. Mais je ne veux pas aller jusqu'à votre porte. Je vais vous quitter pour ne pas irriter davantage votre père. Ils se séparèrent. Farfrae se replongea dans l'ombre de l'allée et Elizabeth Jane remonta la rue. Sans se rendre compte de ce qu'elle faisait, elle se mit soudain à courir à toutes jambes jusqu'à la porte de son père.
« Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais ?» se dit-elle hors d'haleine.
Dans sa chambre, elle réfléchit à la phrase énigmatique de Farfrae et chercha ce qu'il pourrait bien, sans l'oser vouloir lui demander. Une observation silencieuse lui avait depuis longtemps fait sentir la faveur chaque jour croissante dont le jeune homme jouissait auprès des gens de la ville. Connaissant la nature d'Enchard, elle avait prévu que le séjour de Farfrae dans la maison ne serait plus de longue durée, et la nouvelle donnée par l'Écossais ne lui causait qu'une médiocre surprise. Allait-il, malgré ses dires, et le congé signifié par Enchard,
Rester à Casterbridge? Une telle décision eût pu expliquer le mystère de ses paroles. Le lendemain, le vent soufflait si violemment qu'en errant dans le jardin, Elisabeth trouva un morceau de papier, brouillon de lettres d'affaires écrites par Farfrae, qui avait volé par-dessus le mur. Elle emporta chez elle le chiffon inutile et se mit à en copier la calligraphie qu'elle admirait fort. La lettre commençait par les mots « Chère madame ». La jeune fille traça son nom sur une feuille blanche et, posant la feuille sur le mot « madame », vit ressortir cette en-tête « Chère Elizabeth Jane ». Une flamme brusque lui monta au visage et l'envahit toute, bien qu'il n'y eût personne pour voir ce qu'elle venait de faire. Elle déchira vivement le papier et le jeta. Puis, retrouvant son calme, elle se mit à rire, fit quelques pas dans sa chambre et rit à nouveau. Mais son rire n'était pas un rire de joie, il avait un accent de détresse. On sut bientôt dans Casterbridge que Farfrae et Henchard avaient décidé de se passer l'un de l'autre. L'anxiété d'Elisabeth à l'idée du départ possible de Farfrae atteignit un point qui la troubla, car elle ne pouvait plus en dissimuler la cause. Elle finit par apprendre qu'il n'allait pas quitter la ville. Un négociant, qui faisait sur une échelle modeste le même genre d'affaires qu'Henchard, avait vendu son fonds à Farfrae, qui devenait ainsi, pour son propre compte, marchand de foin et de grains. Le cœur d'Elisabeth battit lorsqu'elle apprit cette décision, qui prouvait chez l'Écossais une ferme intention de rester à Casterbridge. Pourtant, un homme qui se fût le moins du monde soucié d'elle, eût-il compromis ses chances en se dressant comme concurrent en face d'Henchard? Sûrement non, et ce devait être une fantaisie passagère qui l'avait poussée à parler si doucement à la jeune fille. Voulant se rendre compte si son aspect au soir du bal était de nature à fixer, du premier coup, un amour hésitant, elle se vêtit exactement comme elle l'était ce soir-là, mousseline, mantelet de soie, petits souliers et parasols, et se regarda dans la glace. L'image renvoyée par le miroir ne pouvait décidément inspirer qu'un attachement fugace, et rien de plus, juste assez pour lui donner un peu de folie, et pas assez pour qu'il en reste ému, se dit-elle sans illusion. Puis elle songea, avec quelque tristesse, que l'Écossais avait dû comprendre depuis lors que l'esprit simple et sans éclat animait cette aimable enveloppe. De ce moment, lorsqu'elle sentait son cœur battre pour le jeune homme, elle se disait avec une ironie un peu douloureuse « Non, non, Elizabeth Jane, ces rêves-là ne sont pas faits pour toi ». Elle s'efforçait de ne plus le rencontrer et de ne plus songer à lui. Elle réussissait bien à ne plus le voir, mais commandait moins aisément à ses pensées. Henchard, blessé de sentir que Farfrae ne voulait plus se plier à son humeur, conçut une fureur sans borne en apprenant la décision du jeune homme. C'est à l'hôtel de ville, après une réunion du conseil, qu'il apprit l'intention manifestée par Farfrae de s'établir à son propre compte, et les éclats de sa voix portaient jusqu'à la pompe municipale lorsqu'il exprima au conseiller son sentiment à ce sujet. Ses accents prouvaient que, s'il avait su se contenir longtemps pour conquérir ses titres de maire, de marguillier et d'autres fonctions encore, on aurait trouvé, en grattant l'écorce de Michel Henchard, les mêmes éléments volcaniques qu'au temps où il vendait sa femme à la foire de Weydon. « Eh bien, il est de mes amis et je suis des siens, ou sinon que sommes-nous? Que le diable m'emporte! Si je n'ai pas été son ami, qui donc l'aurait été? Je voudrais le savoir. Est-ce qu'il n'est pas arrivé ici sans une paire de souliers valides à ses pieds? Est-ce que je ne l'ai pas gardé chez moi en lui donnant une place, en lui donnant de l'argent autant qu'il en voulait? Je n'ai pas marchandé, je lui ai dit, indiquez-moi votre prix. J'aurais partagé mon dernier morceau de pain avec ce garçon-là tant je l'aimais. Et maintenant il me défie. Mais qu'il fasse attention, il va y avoir lutte, une lutte à l'achat et à la vente. Notez-le, achat loyal et loyale vente. Et si je ne puis pas écraser un freluquet comme cela, c'est que je ne vaux pas un liard. On montrera qu'on connaît son affaire aussi bien que n'importe qui. » Les conseillers se tinrent quoi ? Henchard avait perdu de sa popularité depuis le temps où, quelque 2 ans auparavant, sa prodigieuse énergie l'avait fait élire à la première magistrature. S'ils avaient collectivement tiré profit de cette qualité du marchand de grains, ses collègues avaient individuellement regimbé contre lui en plus d'une occasion. Ils le laissèrent donc quitter seul la salle des délibérations et descendre la rue. En arrivant chez lui, il eut une sorte d'amère satisfaction à se remémorer quelque chose. Il appela Elizabeth Jane, qui parut inquiète en voyant son visage tourmenté. « Je n'ai aucun reproche à te faire, » dit-il pour tranquilliser la jeune fille. « Seulement, je voudrais te mettre en garde, mon enfant. Ce jeune homme, Farfrae, C'est de lui qu'il s'agit. Je l'ai vu te parler deux ou trois fois. Il a dansé avec toi le soir de la fête et t'a accompagné jusqu'ici.
Non, je ne te blâme pas.
Mais dis-moi, lui as-tu fait une promesse inconsidérée? Es-tu le moins du monde sorti des banalités avec lui?
Non, je ne lui ai rien promis.
Parfait, tout est bien qui finit bien. Je te demande instamment de ne plus le voir.
Soit, monsieur.
Tu le promets?
Elle hésita un instant, puis...
Oui, si vous y tenez tant.
J'y tiens, c'est un ennemi de notre maison.
Elisabeth partit, et Henchard s'assit pour écrire de sa lourde écriture ce mot à phare frais.
Monsieur, je souhaite qu'à l'avenir, ma belle-fille et vous soyez des étrangers l'un pour l'autre. Elle m'a promis de son côté de ne plus écouter vos avances. Je compte que vous voudrez bien ne plus essayer de la revoir. Monsieur Henchard.
On aurait pu supposer assez de diplomatie à Henchard pour comprendre que le meilleur modus vivendi à l'égard de Farfrae était de l'encourager à devenir son gendre. Mais le caractère décidé du maire se fut mal accommodé d'un détour semblable. Il eût répugné à acheter un rival et était, au surplus, parfaitement brouillé avec toutes les finesses de ce genre. Qu'il aimât ou détestât les gens, il ne calculait guère plus qu'un buffle, et sa femme n'avait pas osé suggérer une ligne de conduite qu'elle eût de son côté, et pour de multiples raisons, suivie avec joie. Cependant, Donald Farfrae s'était installé dans le quartier de Durnover, aussi loin que possible des magasins d'Henchard, et marquait une intention bien nette de ne point traiter avec les clients de son ancien ami et patron. Il y avait, se disait-il, place pour deux, et pour plus encore, à Casterbridge. La ville était petite, mais le commerce des foins et des grains y était relativement important, et avec son habituelle pénétration, le jeune homme sentait une occasion à saisir. Sa résolution de ne rien faire qui pût paraître un acte de concurrence à l'égard du maire était si bien arrêtée qu'il refusa son premier client, un gros fermier bien connu du voisinage, parce que cet homme s'était adressé à Henchard 3 mois auparavant. « Il a été mon ami, disait Farfrae, et ce n'est pas à moi de lui prendre un client. Je suis bien fâché de ne pouvoir vous servir, mais je ne veux pas nuire à un homme qui a été si bon pour moi. » Cette louable réserve n'empêcha point le commerce de l'Écossais de prendre de l'extension. Que ce fût le fait d'une énergie septentrionale, toute puissante en face de l'indolence des dignes habitants du Wessex, ou simple chance, il est certain que tout ce que touchait le jeune homme prospérait aussitôt. Comme Jacob à Padan Aram, à peine décidait-il humblement de s'en tenir aux rares brebis rayées et tachetées du commerce, que les brebis rayées et tachetées se multipliaient et l'emportaient en nombre sur les autres. Mais sans doute la chance n'avait-elle que peu de part à un tel succès. Le destin, c'est le caractère, a dit Novalis, et le caractère de Farfrae était exactement l'inverse de celui d'Henchard, que l'on aurait assez justement comparé à Faust. Comme Faust, on aurait pu le définir un être violent et sombre qui était sorti de la route des hommes vulgaires, sans phare, pour se guider vers une voie meilleure. Farfrae avait reçu le mot qui le priait de mettre fin à toute assiduité auprès d'Elizabeth Jane. Ses avances avaient été si timides qu'une telle interdiction était presque superflue. Il avait pris conscience pourtant du vif intérêt éveillé en lui par la jeune fille, et il décida, après réflexion, que mieux valait pour le bien d'Elisabeth, autant que pour le sien propre, ne point jouer pour l'instant le rôle de Roméo. Ainsi étouffa-t-il son attachement naissant. Le temps vint où, malgré ses efforts pour éviter toute collision avec son ancien ami, Farfrae fut contraint, par simple esprit de défense, à se mesurer avec Henchard dans un duel commercial à mort. Il ne lui suffisait plus de rompre pour parer les attaques terribles du maire. Dès que s'ouvrit entre eux la guerre des tarifs, les assistants suivirent avec intérêt leur combat, dont quelques-uns pressentaient l'issue. C'était en quelque sorte la finesse du Nord opposée à la violence du Midi, poignard contre gourdin, et l'arme d'Henchard était de celles qui, si elles n'assomment pas au premier coup, laissent leur possesseur à la merci de son adversaire. Ils se rencontraient presque tous les samedis, dans la foule des fermiers qui se pressaient sur la place pour leur marché hebdomadaire. Donald était toujours prêt à échanger quelques paroles amicales avec son ancien patron, et cherchait même à le faire, mais le maire lui jetait au passage un regard foudroyant, en homme qui a subi pertes et peines et ne peut pardonner de tels torts à son adversaire. L'air de perplexité soumise de Farfrae ne l'apaisait nullement. Les gros fermiers, les marchands de grains, les meuniers, les commissaires-priseurs et autres autorités du marché
avaient chacun, dans la halle au grain, une place désignée et inscrite à son nom. Lorsqu'à la série familière des Henchard, des Everdeen, des Shinar, des Darton et autres vint s'ajouter le nom de Farfrae en caractère flambant neuf, Henchard se sentit piqué au vif. Comme Bellérophon, il sortit de la foule, l'âme rongée. De ce jour, le nom de Farfrae fut bien rarement prononcé sous le toit du maire. Si, au déjeuner ou au dîner, la mère d'Elizabeth Jane faisait une allusion imprudente aux faits et gestes de son favori, un regard suppliant de la jeune fille lui fermait la bouche, tandis que son mari grondait. « Et quoi, serais-tu mon ennemi, toi aussi ?»